Vous écoutez Ainsi soit-elle.
Quand j'étais une petite fille, on m'avait bien apprise à faire ce qu'on me dit, rien savoir de l'anarchie, savoir rien de politique. Deux hommes déshabillés, de drogue qu'on m'avait, d'amour et de fumée. Et puis tu me paries les réponses aux grands défis de l'univers.
Cette semaine, Ainsi soit-elle, vous êtes en compagnie d'Evelyne et d'Hélène et on a une invitée spéciale, c'est Marie-Andrée Lefebvre qui vient nous parler d'un livre qu'elle a lu dernièrement qui s'appelle « La nouvelle raison du monde », un livre de Pierre Dardot et Christian Laval. Mais avant de passer à cette chronique livre, on va tout de suite passer en musique avec une première pièce d'une sélection musicale un peu punk et hardcore que je vous ai préparée cette semaine. Donc, on écoute la pièce « Trashland » du groupe brésilien As Mercenarias, qui est un groupe punk féminin des années 80.
Kaya FM, vous écoutez Ainsi soit-elle, votre magazine féministe et libertaire favori. Comme je l'ai annoncé en introduction, on est en compagnie de Marie-Andrée qui vient nous parler du livre « La nouvelle raison du monde ».
Alors, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, Evelyne. En fait, oui, je vais vous parler du livre « La nouvelle raison du monde, essai sur la société néolibérale ». C'est un livre qui a été écrit en 2009 par Pierre Dardot et Christian Laval, qui sont deux Français. Pierre Dardot est un professeur de philosophie français et Christian Laval est un sociologue et chercheur en philosophie. C'est deux hommes qui travaillent ensemble depuis 2004 au sein d'un groupe d'études et de recherche qui s'appelle Question Marx. Puis ce groupe-là a pour objet d'interroger les analyses critiques qui ont été faites de la société capitaliste, à commencer par celle de Marx. Puis comme Marx l'avait entrepris à ses débuts, les chercheurs souhaitent formuler une critique de l'ordre existant, ce qui suppose aussi un regard critique sur le Marx. Donc, les deux auteurs, ils affirment que leur réflexion suppose également d'examiner si, pour comprendre le capitalisme néolibéral, les concepts et modes d'interprétation du marxisme suffisent, parce qu'on l'aurait deviné, c'est des marxistes. Et ils se demandent aussi si ces concepts-là sont, les modes d'interprétation marxistes sont assez pertinents pour capter la spécificité des processus et des phénomènes auxquels nous sommes confrontés de nos jours. Donc, c'est à ce stade-là leur questionnement qu'ils ont pris connaissance d'un texte de Michel Foucault qui s'appelle « Naissance de la biopolitique » que Foucault a écrit en 78-79 puis qui portait sur le virage que représentait selon lui le néolibéralisme au regard des formes classiques du libéralisme avec une emphase particulière sur le concept de gouvernementalité. La notion de gouvernementalité, c'est en quelque sorte le point de départ des auteurs dans leur réflexion sur la genèse du néolibéralisme. Le terme de gouvernementalité, ça fait référence à l'action de gouverner plutôt qu'à l'institution, au sens où le gouvernement est constitué, selon eux, de techniques et de procédures destinées à diriger la conduite des individus. Donc, on va revenir plus loin, plus en détail sur l'idée de gouvernementalité, mais pour l'instant, je vais vous expliquer un peu la manière dont le livre s'articule. Donc, il est divisé en trois parties, puis ça propose vraiment une historiographie de la pensée néolibérale de ses débuts à aujourd'hui. Donc, dans la première partie, c'est quand même une bonne brique,
ça,
là, le livre.
Je le regarde là, comme ça, puis je le trouve bien, bien volumineux.
Il y a un bon volume de 500 pages, donc c'est à entreprendre avec, avec patience, disons. Mais c'est quand même intéressant, c'est bien écrit, puis c'est vraiment une historiographie de la pensée néolibérale. Donc, dans la première partie, qui s'intitule « Des limites du gouvernement », les auteurs présentent les premiers penseurs du libéralisme, pardon, donc vraiment 17e au 19e siècle. On peut penser, entre autres, à Adam Smith pour se situer. À l'époque, les réflexions des personnes qui ont conceptualisé un peu l'idée du libéralisme, ça s'articulait surtout autour du rôle que devrait avoir l'État dans la régulation du marché, quelles limites devrait avoir le marché, puis quelle législation devrait l'encadrer. Après ça, la deuxième partie du livre, ça s'intitule « La refondation intellectuelle ». Ça présente le point de rupture entre le libéralisme et ce qui constituera la base du néolibéralisme. Donc, c'est notamment à ce moment-là que la réflexion libérale sur la société se développe autour de la notion de concurrence comme type de lien humain. Puis cette forme de société-là doit être construite et être aussi défendue par l'action directe de l'État. Donc là, on note déjà un point de rupture entre le libéralisme et le néolibéralisme parce que le libéralisme prônait plutôt le désengagement de l'État, le retrait de l'État, la non-intervention. Alors qu'ici, on a clairement un point où est-ce que, dans la réflexion, la forme d'organisation sociale doit être organisée comme le marché, donc comme la concurrence de marché, mais que ça doit être mis en place et structuré par l'État. La troisième partie du livre, « La nouvelle rationalité », ça compose presque la moitié de l'ouvrage. Puis ça explique la manière dont la notion de marché se déploie en une logique normative qui conditionne autant l'État que la subjectivité individuelle. Donc, en fait, c'est de dire que la notion de marché, donc la notion de concurrence, d'achat, de transaction, ça se transpose, selon eux, dans toutes les sphères de la vie humaine, que ce soit dans les interactions interpersonnelles,
tout
au travail.
Tout s'achète.
Exactement. Donc, pour l'instant, je vais vous laisser là-dessus digérer un peu les informations que je viens de vous donner. Puis, au retour, je vais vous expliquer un peu comment ils articulent leur argumentaire.
Parfait. Bien, pour nous permettre de digérer tout ça, on va écouter Le Tigre, qu'on aime beaucoup ici à l'émission, avec la pièce « Your Critic » de leur album « From the Desk of Mr. Lady », un album paru en l'an 2000.
I'm not the one who's always right.
Ainsi soit-elle, cette semaine, on parle avec Marie-André de La Nouvelle Raison du Monde. La Nouvelle Raison du Monde, le néolibéralisme qui s'applique à toutes les sphères de notre vie. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ça fait peur. En fait, donc, comme on disait tout à l'heure, La Nouvelle Raison du Monde, c'est un essai sur la société néolibérale qui est paru en 2009 aux éditions La Découverte, écrit par Pierre Dardot et Christian Laval. Donc, comme on discutait précédemment, en fait, c'est un livre vraiment qui présente... c'est un gros travail de recherche. Ça démontre une maîtrise du sujet absolument hallucinante, là, en 500 pages. Et les auteurs... ils déroulent leur argumentaire de manière très intéressante, puis je vais vous en faire part maintenant. Donc, ils adoptent une perspective constructiviste dans leur analyse. Donc, contrairement à la pensée libérale à ses débuts, selon laquelle le marché était naturel, puis il fallait laisser le marché avec la main visible qui allait se réguler tout seul, puis c'était naturel, c'était presque organique, eux, leur argumentaire se développe avec une perspective constructiviste. Donc, ils soutiennent que le néolibéralisme, c'est la raison du capitalisme contemporain. Raison au sens de rationalité. Donc, d'un capitalisme débarrassé de ses références archaïsantes. Donc, les références archaïsantes, on peut penser ici au libéralisme des années du 17e siècle. Et donc, ils considèrent que le néolibéralisme est pleinement assumé comme construction historique et comme mode général de la vie. Donc, le néolibéralisme peut se définir, selon eux, comme l'ensemble des discours, des pratiques, des dispositifs qui déterminent un nouveau mode de gouvernement des individus selon le principe universel de la concurrence. Ce principe de la concurrence est fondamental dans leur analyse de l'évolution entre le libéralisme et le néolibéralisme. Parce que, selon eux, le libéralisme, dans la doctrine de l'école de Chicago et même avant dans la pensée d'Adam Smith, par exemple, ça comportait deux principaux aspects, à savoir l'idée que la liberté des marchés garantit l'allocation optimale des ressources, bon, on peut penser justement au concept de la main invisible, et que l'intervention du gouvernement nuit à l'équilibre naturel des marchés en déréglant les anticipations. Donc, il y avait une conception du marché comme étant une réalité naturelle, puis le seul interventionnisme toléré, c'était celui d'un État qui opère lui-même son propre désengagement et le nombre de mandats de services publics à sa charge. Selon les auteurs, bien que cette idéologie ait eu une grande influence à l'époque de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne et de Reagan aux États-Unis dans les années 80, eux, ils croient que l'erreur consiste à réduire le néolibéralisme à l'idéologie naturaliste du laisser-faire. Au contraire, selon eux, la dérégulation des marchés associée au néolibéralisme n'a jamais signifié l'absence de règles. Au contraire, c'est accompagné par un ensemble de règles qui ne s'opposent nullement à la concurrence. Elles existent plutôt pour organiser la concurrence, pour la faciliter et la stimuler. Donc, contrairement à la conception générale du libéralisme, le néolibéralisme repose sur l'idée que les règles sont nécessaires au bon fonctionnement de la concurrence. Donc, tout ça, ça nous amène à la thèse de l'ouvrage, qui est la suivante, c'est que le néolibéralisme, avant d'être une idéologie ou une politique économique, est d'abord et fondamentalement une rationalité. Et à ce titre, il tend à structurer non seulement l'action des gouvernants, mais aussi la conduite des gouvernés eux-mêmes.
Donc, là le titre de l'ouvrage.
C'est exact. Exactement. Donc, la nouvelle raison du monde, c'est dans la mesure où il considère que le monde est régulé et résonne selon le principe de la concurrence à tous les niveaux. Tout ça, ça nous ramène à la notion de gouvernementalité de Foucault dont on parlait tout à l'heure, dans la mesure où le néolibéralisme conditionne à la fois l'action du gouvernement, mais aussi celle des gouvernés. Ainsi, les auteurs, ils soutiennent que gouverner, c'est conduire la conduite des individus. Donc, conduire la conduite, c'est un peu redondant, mais ce qu'ils essaient de dire, c'est qu'à condition de préciser que cette conduite-là est tout autant celle que l'on a vis-à-vis de soi-même que vis-à-vis des autres. Donc, c'est là où le gouvernement requiert la liberté comme sa condition de possibilité. Il faut gouverner par la liberté, c'est-à-dire jouer activement dans l'espace de liberté laissé aux individus pour qu'ils en viennent à se conformer eux-mêmes à certaines normes. Donc, c'est comme l'autoréglementation.
Donc, la police dans nos têtes qui nous font penser de façon capitaliste, pas juste agir ou pas juste être dirigé.
Exactement. C'est comme si tu avais ton propre... C'est comme si tu te gérais comme une entreprise dans toutes les sphères de ta vie, selon eux. C'est ça, le néolibéralisme. Ça fait que ça rentre dans ton esprit puis que tu vas être contrôlé par ça parce que toutes les sphères de ta vie sont régies de cette manière-là. Donc... Pour faire un petit wrap-up, contrairement au libéralisme, le néolibéralisme, ça se demande pas quel type de limite mettre au gouvernement ou au marché, mais plutôt comment faire du marché le principe du gouvernement de soi. Donc, si on considère le néolibéralisme comme une rationalité, il est donc précisément caractérisé par le déploiement de la logique de marché comme logique normative, tant pour l'État que pour l'individu. Donc, face à tout ça, les auteurs proposent qu'il faut opposer un double refus, soit celui de se conduire vis-à-vis soi-même comme entreprise de soi et celui de se conduire vis-à-vis des autres selon la norme de la concurrence.
Donc, éviter de, par exemple, consommer nos relations amoureuses et faire du marketing de soi quand c'est le moment de, par exemple, se trouver un emploi.
Exactement. C'est un très bon exemple, en fait. Par exemple, on peut appliquer ça aussi aux organismes communautaires qui doivent entrer en concurrence les uns avec les autres pour avoir des subventions au lieu d'avoir des relations de soutien et d'appui naturellement, qui viendraient tout à fait naturellement si on était dans un...
Et qui se produisent quand même malgré tout.
Non. C'est ça, il y a des relations, il y a des solidarités qui se produisent, mais si on fait juste imaginer un instant que ces organismes-là n'avaient pas entré en concurrence les uns avec les autres pour les ressources, je suis certaine que leur action en serait décuplée s'il n'y avait pas à passer autant de temps à faire des demandes de subventions puis des demandes financières, justement. Donc, justement, face à tout ça, les auteurs... disent qu'ils ne voient pas de finalité dans la raison néolibérale, mais affirment au contraire que rien ne saurait nous émanciper de la tâche de promouvoir une autre rationalité. Donc, les pratiques, selon eux, les pratiques de communisation, de savoir, d'assistance mutuelle, de travail coopératif peuvent dessiner les traits d'une autre raison du monde qu'ils désignent par le nom de raison du commun. Donc, c'est comme ça qu'ils terminent leur livre.
Si tu veux prendre ton souffle, ce que je te proposerais de faire, dans le fond, ce serait d'écouter une petite pièce de 49 secondes qui s'appelle Force Identity du groupe F Minus, un groupe californien. Et on pourrait revenir juste pour quelques minutes avec une petite critique pour ensuite passer en musique une deuxième fois.
Ça me convient tout à fait.
Parfait. Je vous avertis, ça déménage. Sur les ondes de CKIA FM à Insiscouatelle cette semaine, une petite critique personnelle du livre, peut-être, Marie-André, on parle encore du livre La nouvelle raison du monde.
Oui, en fait, j'ai lu ce livre-là parce que je fais une recherche actuellement sur le néolibéralisme, puis ses effets sur les politiques de gestion des communautés de l'État face au néolibéralisme. Je vais revenir vous en parler plus loin dans la saison parce que je vais avoir développé un peu ma réflexion là-dessus, puis surtout, je vais avoir lu davantage, mais disons que ce livre-là, c'était ma première expérience par rapport à la théorie du néolibéralisme. Et je dois dire que, à mon avis, c'est une lecture essentielle pour les personnes qui s'intéressent au néolibéralisme, puis qui veulent lire un très bon résumé de l'évolution de la pensée libérale, néolibérale, depuis ses débuts. À mon avis, le livre permet de réfléchir à la manière dont la démocratie libérale a évolué et ça offre aussi des bonnes pistes de réflexion pour comprendre la manière dont la concurrence conditionne de nombreux aspects des interactions sociales. On a juste à penser aux exemples qu'on a donnés tout à l'heure, donc par exemple les organismes communautaires qui doivent se battre pour avoir des subventions au lieu de donner les services pour lesquels ils existent. On peut penser aussi aux relations qu'ont les individus entre eux. Simplement, même dans le système d'éducation, les individus sont mis en concurrence ensemble, entre eux en permanence. Les gens qui vont avoir les bourses, les gens qui vont avoir les subventions, c'est toujours ceux qui performent le mieux dans la concurrence. Puis, c'est principalement, en fait, les auteurs expliquent que ça découle directement de la rationalité néolibérale. Je dois dire que la lecture de ce livre-là a de quoi nous déprimer un peu parce que, malgré ce qu'affirment les auteurs, leur proposition d'alternative, elle ne compose que 5 pages sur 498. Donc, à un moment donné, tu arrives à la fin et tu es comme, OK, mais je vais finir par lire quelque chose d'encourageant, je vais finir par lire quelque chose qui fait, OK, on a complètement décortiqué ce système-là pour vous, puis on a compris
qu'est-ce
qu'il faut faire, ou au moins on a des pistes de réflexion, mais ils offrent aucune alternative concrète au mode d'organisation de la société qui dénonce. Donc, si ce n'est que de reprendre certains principes déjà connus du marxisme, comme la communisation des ressources collectives ou encore la solidarité sociale, qui est une expression qui fait partie du vocabulaire populaire depuis des décennies. Donc, même si leur analyse du néolibéralisme comme telle est très pertinente et très intéressante, elle reste, à mon avis, un peu globalisante, un peu envahissante, puis c'est comme si ils dénonçaient ça, puis c'est comme si à la fin ils arrivaient puis ils n'avaient pas l'énergie de proposer d'autres choses. Puis je leur reproche pas, mais à la fin, tu lis pas 500 pages pour te faire dire en 5 pages, faudrait qu'on vive tout ensemble bien heureux puis qu'on se prenne par la main, tu sais. Il me semble que des philosophes devraient proposer une alternative sociale, une alternative d'organisation, de réflexion. Puis je pense que de ce côté-là, c'est un petit peu, disons qu'ils n'ont pas répondu à mes attentes, mais en résumé, je dirais que c'est définitivement une bonne lecture pour qui a le temps de passer au travers des 500 pages de l'ouvrage, mais les solutions aux problèmes dénoncés se trouvent manifestement ailleurs.
Bien, merci de nous en avoir fait part. Avec un peu de chance, ça va avoir donné le goût à des personnes de le lire ou pas. donc, déjà ça de prix. Merci Marie-André. Tu restes avec nous pour le reste de l'émission si tu veux.
En avec
attendant,
plaisir.
On va écouter Beyond Pink, un groupe de la Suède, et une pièce qui s'appelle Slave for My Uterus. De CKIA FM, vous êtes en compagnie de l'équipe d'Ainsi Squat-t-elle et on va passer pour le reste de l'émission en nouvelles, pour commencer avec Hélène qui nous parle d'une loi controversée aux États-Unis.
Oui, en fait, bonjour tout le monde. On peut appeler ça une croisade, en fait, carrément idéologique déprouvée contre les victimes de viol. Ça se passe aux États-Unis en ce moment. Il y a une accusation qui commence à pas être très originale, c'est-à-dire l'accusation des républicains contre Obama et les démocrates de dire qu'ils font la promotion d'un agenda caché libéral au lieu de se concentrer sur le vrai problème en Amérique qui serait la création d'emplois. Évidemment, depuis la crise économique, on dit que c'est de ça qu'il faudrait parler. Pourtant, ce qu'on a pu remarquer, c'est que le premier acte de la nouvelle Chambre a été l'abrogation symbolique des soins de santé suivis par un accent sur la véritable passion, en fait, conservatrice, qui est la régulation de la vie sexuelle des femmes les plus vulnérables et sans pouvoir politique, bien évidemment. Donc, la dernière proposition, elle vise à limiter les compensations pour les victimes de viol, à moins qu'elles puissent démontrer que le viol a été forcé. Donc, dans le fond, c'était « a real rape ». Puis cette proposition, dans le fond, justement, réintroduit la distinction contre laquelle les femmes et les féministes se sont battues pendant des décennies, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grands ou de petits viols, il y a des viols. Puis ça, on en avait déjà parlé à l'émission, entre autres avec Marie, de toute l'espèce de dérapage qui se fait, hein, de, au niveau du vocabulaire, de la sémantique, qui est assez parlante, parce que avec les mots, justement, on nomme puis on crée les réalités. Donc, de parler d'attouchement et non de viol, de parler de justement d'attouchement prolongé, ou puis tout ça, ça nous ramène aussi à un cadre clairement hétérosexiste où le viol serait seulement associé au fait qu'il y a eu pénétration ou pas. Hein? Donc, ça, ça nous ramène à ça aussi. Donc, cette proposition-là, justement, a réintroduit justement la notion vraiment qu'il faut que tu prouves à quel point tu as été violée. Est-ce que c'était un real rape? Et donc, dans le fond, ce que ça nous présente justement comme notion, c'est que le viol, il va être réel seulement si c'est un étranger qui sort par surprise d'un buisson puis qui pointe un fusil sur la tête de la femme. Donc, alors qu'on sait que dans la majorité des cas, souvent, it's not a stranger, dans le sens que c'est pas souvent les agressions sexuelles.
Exactement. Par la personne agressée.
Donc. Exactement. Qu'on pense à l'inceste, entre autres, ou en tout cas un camarade de classe.
Au viol conjugal.
Exactement. Donc, ça va à l'opposé, finalement, de la réalité qui est vécue par les femmes. Mais dans le fond, dans le cas contraire, quand justement c'est une personne qui est connue, ben on va assumer que la femme doit nécessairement être complice de l'acte sexuel, et conséquemment assumer la grossesse, et conséquemment renoncer à l'avortement. Donc, il y a un point stratégique et politique très important. Je pense que j'ai déjà parlé ici du Crunk Féministe Collectif que j'ai découvert sur Internet, et c'est un peu leur analyse que je reprends ici. C'est ce qu'elle mettait comme, dans le fond, en garde les groupes féministes aux États-Unis de pas seulement se battre pour défaire cette mesure-là, parce que cette stratégie défensive perpétue la pratique sur laquelle on laisse l'extrême droite, dans le fond, définir les termes du débat en matière de reproduction. Donc, où justement les pro-vie seraient les défenseurs, les gentils de la reproduction, tandis que les pro-choix seraient des espèces d'assassins qui rêvent d'assassiner des fœtus 24/24. Il donnait l'exemple, entre autres, du Wisconsin, qui offre un exemple inspirant, justement, que, dans le fond, le Wisconsin a rejoint 16 autres États américains, dont le district de Columbia, dans la signature de, je vais dire en anglais parce que ça se traduit mal, c'est Compassionate Care for Rape Victim Act, puis ça a adopté en 2008. Puis, dans le fond, cette loi-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle exige que les salles d'urgence où les victimes de viol vont se présenter informent puis donnent accès rapidement, dans le fond, à la contraception d'urgence, ce qui n'était pas fait. Moi, déjà, j'ai fait ça quand j'ai vu ça. Donc, dans le fond, ce dont on parle de la pilule du lendemain, tout simplement. Donc, peut-être vous rappeler que la pilule du lendemain consiste à administrer une dose élevée de progestérone, l'ingrédient actif dans la pilule contraceptive. Dans le fond, l'idée, c'est que c'est un traitement qui est relativement peu coûteux, relativement peu d'effet sur la santé, en tout cas à long terme, pour les personnes qui en ont déjà pris, ont vomi quand même, là, mais bon, disons que c'est restreint. Puis c'est quand même efficace 72 heures après le rapport sexuel. Donc, d'où l'idée, justement, de rendre ça accessible, d'informer les victimes de viol qui se présentent en salle d'urgence pour dire « bon, ben là, je viens d'être violée, je t'inquiète ». Puis il y a une étude en 2006 qui indiquait, dans le fond, qu'il y avait 66 % des salles d'urgence du Wisconsin qui avaient omis de mentionner aux patients, donc je ne sais pas s'ils avaient oublié ou ils étaient trop occupés, mais qui avaient omis de mentionner aux patients, donc qui s'étaient présentés aux agences après un viol, qu'elles pouvaient avoir accès à la pilule du lendemain, puis même de leur offrir, dans le fond. Donc,
alors qu'au Québec, tu vas à la pharmacie, oui. Ta demande, tu l'as, là?
Oui. Absolument. C'est ça. Donc, ça peut paraître, dans le fond, cette espèce de projet de loi-là, pas le projet de loi, mais ce qui a été adopté, le Compassionate Care for Rape Victim Act, pour nous, ça peut sembler au Québec comme quelque chose d'évident et de banal, mais ça a quand même été juste adopté en 2008, puis pas par tous les États aux États-Unis.
Puis dans le fond, si les féministes le citent comme exemple, parce que c'est une façon proactive pour un État de légiférer avant que, justement, les supposément pro-vie essayent de faire passer des lois qui vont dans le sens inverse. J'imagine que si on définit c'est quoi un viol dans une loi avant que les pro-vie demandent de le définir, ben j'imagine que c'est un peu ça, l'idée de ne pas laisser les républicains toujours citer les termes de l'agenda. Là.
Exactement. D'où l'espèce de stratégie de pas juste être à la défensive puis de dire « Ah, oh, on va essayer de se battre contre un projet de loi », mais d'être proactif puis de proposer proposer des pistes de solutions. Donc, il y avait ça, entre autres. L'autre argument que le crime collectif amenait, c'est que les groupes de femmes, dans le fond, pouvaient gagner justement du terrain en changeant les termes du débat, puis en changeant justement comment la lutte se mène. Donc, ce qu'elles mettaient de l'avant, c'est d'abord que les victimes de viol ont besoin de soutien, de ressources, et pas d'un énième débat abstrait à savoir si le viol est réel ou pas, s'il s'est passé ou pas, par qui, quand, comment. D'ailleurs, il ramenait une statistique assez intéressante. J'ai pas les chiffres, mais qui, en gros, on sera pas surpris, disait que, comme par hasard, beaucoup plus d'hommes noirs ou en tout cas racialisés, latinos, etc., qui sont condamnés pour viol comparés à nos chers caucasiens. On n'est pas surpris. C'est pour ça que j'ai même pas noté le chiffre. La seule façon de le faire, selon elles, c'est de mettre de l'avant des propositions comme, justement, prendre le traumatisme du viol au sérieux, faire que le vrai problème soit visible et offrir des solutions pratiques. Puis j'aimais vraiment la conclusion où il disait, dans le fond, que c'est important d'exposer la posture prouvée au Congrès pour ce qu'elle est. Puis il insistait vraiment là-dessus, l'invisible et le visible. Donc, dans le fond, de mettre en lumière que les pro-vie, il y a une croisade idéologique vraiment qui, dans le fond, qui réussit seulement parce que les véritables victimes demeurent invisibles et pas entendues. Puis que c'est justement en mettant de l'avant les témoignages des femmes qui vont dire, ben oui, justement, comme tu parlais, par exemple, du viol conjugal, ou tout simplement le professeur qui a pu faire, j'allais dire, des attouchements, mais on va le dire comme ça, mais en tout cas, toutes les situations d'agression sexuelle, tout simplement, ça nous amène à un thème qu'on va traiter bientôt, dont on disait le consentement. Oui. Comment, quand ça commence, quand ça finit, ben c'est pas compliqué, c'est non, tout simplement. Fait que je trouvais ça intéressant de le ramener parce que c'est juste à côté, c'est aux États-Unis, puis ça peut être comme quasiment encourageant, je trouve. C'est sûr qu'on a des luttes et des batailles à mener encore ici, mais en tout cas, comme tu le disais, on a quand même une petite piste d'avance ici quand même à certains niveaux. En tout cas, à ce qui a trait à l'accès à la pilule du lendemain, par exemple, ça, c'est sûr qu'on n'est pas pire.
Puis par rapport au consentement, j'ai lu une phrase récemment, je me rappelle plus c'est qui a dit ça, mais c'était, je pense que, c'est drôle, je pense que c'est Lisa Frula, mais je suis pas certaine, mais elle disait, non, c'est pas quelqu'un que j'aime citer souvent, mais je sais pas si c'est elle, j'ai comme un doute, mais je pense que c'est elle, mais c'est pas vraiment grave, parce que c'est la phrase qui est intéressante, puis c'était non, c'est une réponse complète, no is a complete answer, tu sais, puis ça m'a tellement... J'ai trouvé ça puissant, tu sais, puis de réfléchir à ça aussi, tu sais, quand quelqu'un dit non, tu sais, ça veut pas dire oui. Non, c'est une réponse complète.
Puis il n'y a pas besoin de dire pourquoi.
Exactement. C'est ça, dans la mesure où c'est une réponse complète, ça ne nécessite rien d'autre. C'est une réponse en soi.
Mm-hmm. Puis même dans l'argumentaire des personnes qui travaillent sur la question, il y a beaucoup, tu sais, il y avait, sur un poster, j'avais trouvé ça vraiment bien, c'était « pas ce soir, ça veut dire non. J'ai mal à la tête, ça veut dire non. Je suis fatiguée, ça veut dire non. » Va-t'en! Lâche-moi, s'il te plaît. Ouais. Alors,
ça
voilà.
Ça tombe bien parce que la prochaine pièce que je vous ai préparée s'appelle « Crier non ». Mais ça, c'est la traduction parce que c'est une pièce en russe du groupe Anti-Globalizator.
Non,
ce soir à Ainsi Squattel. Donc, on poursuit en nouvelles. Hélène, tu avais une petite déclaration à nous lire qui est très d'actualité.
Oui, absolument. En fait, on se disait qu'on entend beaucoup parler du printemps arabe en ce moment, hein, de tout ce qui se passe en Tunisie, de ce qui se passe en Égypte aussi. On peut quand même mentionner qu'aujourd'hui, manifestation au Caire, 2 millions de personnes dans la rue. J'en parlais avec les hommes qui sont proches de moi, soit mon père et mon chum, qui ont eu la même réflexion, qui étaient là, ben là, 2 millions, sont beaucoup en Égypte, parce que tu sais, c'est quoi le pourcentage? J'étais là, hey!
2 millions,
c'est quand même 2 millions, on peut-tu rester dans l'absolu? Mais c'est vraiment la même réaction qu'ont eu les deux. Les deux, c'était comme, mais non, mais tu sais, par rapport au nombre de personnes en Égypte, faut que tu fasses ton pourcentage. J'étais là, non, 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 là,
Let's be happy
Let's
for once.
Let's dance, s'il vous plaît. Mais c'est ça. Puis on vous prépare un dossier spécial sur le printemps arabe parce qu'on veut. C'est ça. C'est moi en fait qui est en charge de ça. Mais en attendant, c'est intéressant de voir justement les répercussions que ça peut avoir tout autour. Puis, on avait envie de porter la voix des femmes iraniennes jusqu'à vous qui ont publié une déclaration. En fait, samedi, le 29 janvier, il y a eu une grande marche des femmes qui a été organisée à Tunis, où il y avait des femmes et des hommes qui manifestaient au cri de « Moussawat, égalité ». Pour exiger la laïcité et l'égalité totale entre les hommes et les femmes dans la nouvelle constitution. Donc, je trouvais ça quand même intéressant de le ramener. Donc, elles ont publié cette déclaration de solidarité, les militantes féministes iraniennes, avec les femmes en Tunisie, dans le fond, en disant « Nous sommes solidaires avec les femmes tunisiennes » et ça se lit comme suit. « Le monde a été surpris par la volonté du peuple tunisien qui n'a pas hésité à revendiquer ses droits et a pris des mesures importantes pour assurer son droit à l'autodétermination. » Comme le reste du monde, les militants et les militantes des droits des femmes observent de près l'évolution en Tunisie, en particulier les femmes qui se lancent dans un processus de construction démocratique passionnant, mais difficile, afin de garantir les droits de l'humain et les lois de leur pays. Donc, ce qu'elle continue en disant, « Nous sommes particulièrement intéressés et concernés par l'impact de ces évolutions sur les droits des femmes et sur l'égalité des femmes et des hommes. » elles disent « Nous reconnaissons que les militants et les militantes des droits des femmes en Tunisie n'ont pas oublié leur lutte et leurs acquis majeurs pour les droits des femmes. Les militants et les militantes des droits des femmes en Tunisie doivent savoir ce qu'ils parviennent à accomplir dans leur quête pour la démocratie et l'égalité femmes-hommes, qui aura un impact important sur la région et qui peut servir de modèle, dans le fond, pour tous et toutes. » Puis ça, je me permets une parenthèse, dans nos expériences, je n'irais pas jusqu'à dire révolutionnaires, mais disons, pré-insurrectionnelles qu'on a pu avoir au Québec, on sait que quand on est dans des situations d'urgence, souvent, c'est là que la vision des tâches sexuelles, la vision sexuelle des tâches, dans le fond, ou en tout cas, tous nos beaux principes prennent le bord parce que là, c'est l'urgence, puis là, c'est le temps de bouger, puis c'est le temps d'avoir nos leaders en avant. Donc, bien humblement, on peut comprendre leur réflexion, ou en tout cas, le fait qu'ils prêtent attention à cette question-là. Donc, ce qu'elles disent, elles concluent en disant « Aujourd'hui, comme le peuple de Tunisie, nous avons beaucoup d'espoir. Nous espérons que les acteurs clés ne feront pas de compromis sur les droits des femmes, on l'espère aussi, et que les femmes sont pleinement impliquées dans le processus de définition de l'avenir d'une Tunisie démocratique. » En tout cas, de l'extérieur, on peut pas savoir si elles sont impliquées, ces femmes-là, dans le processus, mais pour avoir vu beaucoup de photographies qui commencent de plus en plus à circuler sur Internet, dont Facebook, il y avait un album très intéressant, entre autres, qui est sorti, où on voyait justement les femmes qui étaient vraiment à l'avant, puis pas du tout en arrière, mais en première ligne face aux policiers. Puis, je trouvais ça vraiment intéressant de voir justement la déclaration qui suivait, puis qui disait « Les femmes s'organisent en ce moment, puis c'est pas juste une révolution d'hommes, au contraire, puis dans les comités locaux qui s'organisent, elles sont là. » Donc je fais plein de parenthèses, mais tout ça pour dire que la fin de la déclaration, c'est « Nous espérons que les citoyens et citoyennes tunisiens préserveront non seulement leur acquis dans leur domaine des droits des femmes, mais prendront des mesures afin d'assurer l'égalité femmes-hommes dans les nouvelles lois qui seront votées. » leur participation non discriminatoire à la vie civique et politique. Nous espérons que les victoires du peuple tunisien inspirent toutes les nations et tous les peuples dans notre région à prendre des initiatives concrètes pour assurer la gouvernance du peuple par le peuple, la protection des droits des femmes et l'égalité de tous les citoyens et citoyennes. En tout cas, c'est très inspirant comme déclaration. C'est très inspirant ce qu'on voit aussi, ce qui se passe avec ce printemps arabe, et c'est à suivre.
si vous permettez, pour rester dans le thème, dans le fond, je passerai avec une pièce, la pièce numéro 7, qui s'appelle Liberté C. C'est en portugais, on suppose que ça veut dire se libérer ou libère-toi ou quelque chose comme ça. C'est du groupe Boulimia et c'est sur un album qui est paru en 2001.
Sur les ondes de CKIA FM 88,3. Vous êtes en compagnie de l'équipe d'Insiscouatel et on prend quelques minutes pour la campagne Agiprop de CKIA. Vous savez que CKIA vit une crise en ce moment, mais en même temps, ça demeure positif et vivant dans le sens qu'il y a beaucoup de gens qui s'organisent, qui s'activent autour de ça. Entre autres, aujourd'hui, il y avait les collectifs des émissions de Voix de fait, de Cultivons notre hip-hop et d'éducation qui étaient simultanément qui ont tenu des tables au Cégep Garneau, au Cégep de Limoilou et à l'Université Laval afin de vendre les cartes de membres. Donc, on salue vraiment l'initiative de nos camarades. Evelyne, tu vas poursuivre avec notre infopub.
J'imagine que vous en avez déjà entendu parler, mais notre objectif, c'est d'avoir 1000 nouvelles adhésions. Donc,
pour l'instant, on est rendu à 650.
Ça va quand même très, très bien. Puis, c'est pour financer la station, en gros, et pour montrer l'appui populaire dont bénéficie cette radio-là communautaire qui appartient à ses membres et qui est runnée par des bénévoles, par des producteurs, productrices bénévoles. D'ailleurs, ce jeudi, à l'AJT, il va y avoir un 5 à 7 des producteurs et productrices de CKIA. Donc, si vous voulez rencontrer les animateurs et les animatrices de vos émissions préférées, nous allons être présents. Ça va être aussi une belle occasion pour acheter vos cartes de membres parce que c'est important, dans le fond, d'appuyer CKIA. CKIA, c'est une radio communautaire qui roule depuis déjà au moins 25 ans.
Puis aussi, si vous avez besoin d'incitatifs pour acheter votre carte de membre qui ne coûte que 20 $, on vous souligne que vous avez des rabais à la librairie Pantoute, chez Alpaca, au Bal du Lézard, la Barberie, le Fou Bar, Café Babylone. Donc, bref, vous donnez quelque chose à CKIA et ça vous rapporte.
Si vous voulez acheter votre carte de membre, en plus des moments qu'on vous a nommés, comme par exemple le 5 à 7 de jeudi, vous pouvez le faire par téléphone en nous appelant au 529-9026. Vous pouvez le faire en personne en venant nous voir au 600 Côte d'Abraham ou le plus facile sur notre site web à ckiafm.org. Il est même possible de payer par PayPal ou encore d'imprimer le formulaire d'adhésion et de nous l'envoyer par la poste avec un magnifique chèque de 20 $ pour la plupart des personnes, 10 $ si vous êtes vraiment cassé ou beaucoup plus si vous vous sentez particulièrement généreux.
On vous rappelle que c'est vous. Oh, vas-y, Hélène.
Je voulais juste, si vous appelez les offres là.
No means no. It's a complete answer. Oui, puis aussi, ben, tout ça pour vous dire que cette campagne de financement-là, elle a pour but de permettre que l'indépendance de la radio CKIA perdure dans le temps et qu'on ne soit pas soumise à la logique néolibérale de la concurrence dans toutes les sphères de notre vie.
Voilà, donc tout à fait cohérent avec l'émission d'aujourd'hui. En fait, j'avais un dernier petit sujet, dans le fond, dont je voulais vous entretenir aujourd'hui, c'est la campagne québécoise des Lundis sans viande. Les Lundis sans viande, c'est une campagne qui a commencé à l'Université John Hopkins à Baltimore, aux États-Unis, et ça vise à promouvoir les bienfaits écologiques et sur la santé de réduire notre rapport ou notre consommation de produits animaux. Donc, eux, ils ont commencé ça le lundi, et plusieurs pays se sont lancés aussi dans la campagne de Lundi sans viande, dont les États-Unis, l'Angleterre, les Pays-Bas, le Brésil, la Finlande, la France, la Belgique et Taïwan. Au Québec, ça, vous en avez peut-être entendu parler un peu cet été, mais ça a commencé aussi la campagne québécoise Lundi sans viande. Vous pouvez en savoir plus sur le site lundisansviande.net. En gros, c'est toute une réflexion sur l'impact de la surconsommation de viande qui est souvent trop sous-estimée ou ignorée. Donc, à la place d'essayer de convaincre tout le monde d'être végétarien, les Lundis sans viande, ça s'est dit, ben si tout le monde, on arrête de manger de la viande et des produits d'origine animale le lundi, ben ça va être toujours bien ça de gagner. Donc, c'est pour conscientiser, pour motiver le maximum de personnes à remplacer au moins une fois par semaine les produits animaux dans leur alimentation. Pourquoi ça se passe le lundi? Ben, c'est les premiers qui ont starté ça, en fait, ils ont, au département de santé publique de l'Université John Hopkins. Ils ont mis ça le lundi pour deux raisons. D'abord, une raison historique, parce que pendant la guerre, c'était quelque chose qu'on avait demandé aux gens de faire, de se priver de viande le lundi, comme pour faire leur effort de guerre. Puis aussi parce que le but, c'est d'instaurer des saines habitudes de vie chez les gens. Puis il paraît que quand on commence quelque chose le lundi, on a tendance à plus l'intégrer dans notre routine, parce que c'est le début de la semaine.
J'essaie ça avec le yoga pilates en ce moment. Je suis pas allée cette semaine, ça veut-tu dire que ça marche pas?
Je sais pas, mais pour les lundis sans viande, en tout cas, c'est bien parti, parce qu'il y a vraiment de plus en plus de groupes d'artistes, de célébrités, de coalitions qui signent et qui se joignent à la campagne. Et la coalition des lundis sans viande, la coalition québécoise, dans le fond, elle s'engage sur son site web à publier les noms des personnes qui signent, mais aussi à publier la liste des restaurants où c'est possible de se procurer un repas complet sans produits animaux le lundi. Donc,
Donc, c'est pas juste une initiative individuelle, c'est possible de Est-ce que tu as une idée des endroits où est-ce que c'est mis en place, ça?
Bien, à plusieurs endroits au Québec, il y a plusieurs restaurants, il y a plusieurs institutions ou cafétérias aussi qui ont signé la campagne, mais je sais que les gens de la coalition font des pressions sur des cafétérias, par exemple, la cafétéria au Complexe G, les cafétérias des écoles, des endroits comme ça, même il y a des pressions sur les cafétérias à l'Université Laval, d'ailleurs.
Sodexo?
Oui.
On les aime beaucoup à Insi
Squatel. On les adore, mais
on aime ça mettre de la pression sur Sodexo.
Oui, c'est ça. On les aime surtout pour mettre de la pression dessus, mais c'est comme vendeur, les lundis sans viande, c'est comme une sorte de greenwashing. Ça paraît bien pour l'image des entreprises d'embarquer dans cette campagne-là. Puis dans le fond, ce que la coalition des lundis sans viande se dit, c'est que, ben tant mieux, tu sais. Pour trois raisons principales, dans le fond, pour eux, c'est vraiment important qu'il y ait le plus de monde possible qui réduise leur consommation de produits animaux. Il y a d'abord, évidemment, pour l'environnement, parce qu'on sait que la production de viande, incluant le transport des animaux puis le transport de la viande, c'est responsable de 18 % des émissions globales de gaz à effet de serre. Donc, c'est plus que toutes les autres formes de transport confondues qui valent pour 13 % les émissions de gaz produites par le bétail, dans le fond, c'est surtout du méthane, qui est un gaz qui a encore plus d'effet de serre que le CO2 qu'on a tellement dénoncé. Par rapport à l'utilisation des ressources aussi pour l'environnement, on sait que une alimentation à base de produits animaux requiert à peu près 4,5 fois plus de superficie agricole qu'une alimentation à base de végétaux. C'est pire pour la viande rouge que pour la viande blanche, mais dans tous les cas, convertir des protéines végétales en protéines animales, c'est pas très efficace. Si on nourrit des animaux avec des végétaux, puis eux, ils ont besoin de manger en moyenne 7 kilocalories pour redonner 1 kilocalorie de viande aux personnes qui la mangent. Donc, c'est pas très efficace en termes de consommation et d'utilisation des ressources. Puis quand on sait que dans une année, l'humain consomme déjà depuis plus de 20 ans beaucoup plus de ressources que ce qu'une année peut régénérer en ressources, ben c'est un peu dans cette optique-là qu'on essaie de réduire notre empreinte écologique, entre guillemets. À part le gaz, les gaz à effet de serre, l'utilisation des ressources, il y a d'autres problèmes environnementaux qui sont associés aussi à l'élevage des animaux, comme par exemple la déforestation, la désertification, l'érosion des sols, la pollution des sols, la pollution de l'eau, les plus acides, name it. La deuxième grande raison pour réduire sa consommation de viande, selon la campagne « Des lundis sans viande », c'est pour améliorer notre santé. En effet, on mange plus d'antioxydants, plus de fibres, plus de phytoprotecteurs quand on mange plus de légumes, dans le fond. En gros, je ne m'étendrai pas plus longtemps là-dessus. Puis, la troisième raison, bien, c'est toutes les raisons éthiques qui entourent le choix d'une alimentation végétarienne, parce que la plupart des viandes consommées au Québec proviennent des fermes qui utilisent des techniques industrielles de production. Ça veut dire plus de 650 millions d'animaux consommés chaque année au Canada. Ces animaux-là sont élevés, transportés et abattus dans des conditions que plusieurs personnes jugent inacceptables d'un point de vue éthique. On les traite vraiment de manière mécanique, industrielle, on les traite comme de la marchandise, on s'arrête pas à la souffrance, à leur capacité physique à ressentir de la douleur, à ressentir de la souffrance. Des trucs comme enlever la queue des cochons, enlever les becs des poussins, castrer les mâles de toutes sortes d'espèces sans anesthésie. Il y a plein de monde qui sont quand même assez outrés de ça. Donc, la meilleure façon de réduire cette souffrance animale-là, dans le fond, pour cette campagne-là, c'est de réduire sa consommation de viande. Donc, si vous voulez en savoir plus, sur le site des Lundis sans viande, lundisansviande.net, il y a des ressources comme le dépliant que je viens de vous lire ou de vous résumer. Il y a aussi un dépliant avec plein de recettes, parce que c'est pas évident tout le temps, hein, faire des recettes sans viande et sans fromage, sans produits d'animaux, parce que remplacer une calorie de viande par une calorie de fromage, c'est pas au niveau de l'environnement, de la production des gaz à effet de serre, tout ça, c'est pas plus efficace. Donc, l'idée, c'est vraiment de remplacer une fois par semaine les produits d'origine animale. Donc, plein de ressources sur le site lundisansviande.net pour pas se sentir tout seul dans cette initiative-là. Puis, si vous êtes à Québec, puis vous voulez manger en groupe, à l'agiter, on a adhéré au Lundi sans viande avec le comité cuisine collective. Donc, chaque lundi, il y a une petite équipe qui se charge de préparer un repas sans viande et vous pouvez venir le partager à 18h en échange d'une contribution volontaire. Si vous voulez prendre votre tour pour inviter vos comparses à manger et tester vos recettes végétaliennes, vous pouvez le faire aussi en contactant les personnes qui sont sur place. Donc, c'était ma dernière petite intervention. On peut peut-être passer en musique avant de revenir avec une petite conclusion. Je vais choisir la pièce de Bitch Alert Homophobia, qui est une pièce d'un groupe finlandais sur un album qui s'appelle Pay for Orgasm, paru en l'an 2000.
Homophobia. anywhere. Nothing anywhere. Or the suburb on the way. Where is my mind now? Would you stay over? Would you stay away? Would you stay?
C'est déjà la fin de cette édition d'Ainsi Squat-t-il. On vous invite, si vous nous écoutez en direct mardi et qu'il approche 20 heures, de vous rendre le plus vite possible à l'AJT pour les mardis de l'anarchie, où est-ce qu'on a une conférence de l'activiste montréalais Jagling qui vient nous parler de l'apartheid global. Sinon, la semaine prochaine, au mardi de l'anarchie, il va y avoir aussi une activité très intéressante. Donc, c'est toujours un rendez-vous. Sinon, vous pouvez nous écrire entre-temps à ase@resist.ca ou nous visiter sur Internet à ainsisquattel avec des traits d'union.org. Vous pouvez aussi écouter nos anciennes émissions en podcast. Donc, merci beaucoup, Marie-André, d'avoir été avec nous.
Ça m'a fait plaisir.
Merci, Hélène, pour la mise en onde et pour les nouvelles. Et on vous invite à nous réécouter en rediffusion le mercredi à 14h ou en direct la semaine prochaine, le mardi à 19h.